Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Cube Radio.
Bienvenue au 7e épisode du balado du Code Québec. Le Québec a changé. L'une des tendances les plus fondamentales, c'est que le Québec est devenu plus entrepreneurial. Il y a 10 ans, le Québec était au dernier rang des gens qui voulaient lancer leur propre entreprise. Aujourd'hui, on se retrouve au premier rang, propulsé par les jeunes, par les femmes, par les immigrants, qui sont fiers de leur réussite, qui sont fiers de leur différence. La fierté, le 7e trait identitaire. Bon balado! Alors, bienvenue au balado Code Québec. Je suis Jean-Marc Léger, président de la firme de sondage Léger. Mon ami Jacques Nantel, professeur émérite et co-auteur de l'ouvrage avec nos amis Pierre Duhamel et Philippe Léger. On vous a présenté jusqu'à maintenant les 6 traits de caractère les plus importants. Il reste un qui est encore plus important. Donc, les Québécois sont des gens heureux, on le savait. Les Québécois sont des gens consensuels, détachés, victimes, villageois et créatifs. Mais la créativité nous amène ailleurs. Il y a le trait identitaire, le 7e trait identitaire, qui est vraiment le lien entre la créativité et le bonheur, le retour aux sources du bonheur. Celui-là est celui de la fierté. Jacques, les Québécois sont fiers.
Ils sont très fiers. Je pense que c'est un lieu commun de dire que les Québécois aiment se sentir singuliers dans une société. Et on l'est à bien des égards pour les raisons que tu mentionnes. On est d'ascendance francophone, on n'est pas des Français, on vit en Amérique, c'est un océan anglophone, on a des comportements américains, on est créatif. On n'a pas les ressources, malheureusement, les ressources, j'entends, monétaires du reste de l'Amérique, mais on réussit. Et tout ça crée chez nous un grand sentiment de fierté. Dans beaucoup de cas qui est totalement avéré, dans d'autres cas qui est peut-être un peu suranné, il y a des choses qu'on a bien réussies. Par exemple, pour y avoir passé 40 ans, notre système universitaire, et là, je ne serai pas chauvin, là, je vais dire l'ensemble des universités au Québec, est d'une qualité absolument remarquable. Quoi qu'on en dise, lorsqu'on se compare au reste de l'Amérique du Nord, je pense qu'on a raison d'être fier. Ça, on l'a réussi. On a réussi des choses dans le domaine, dans le commerce, qui sont exemplaires. Desjardins, je pense que c'est un objet de fierté. Mais ça, ça nous caractérise parce qu'on l'a monté une pierre à la fois, souvent contre vents et marées.
Ouais, puis la fierté s'exprime aussi aujourd'hui dans les sondages, dans la fibre entrepreneuriale.
Ouais.
T'sais, des Québécois est un créatif patenteux, mais il est devenu un entrepreneur chevronné.
Ouais.
Et ça, c'est une des données qui m'a le plus impressionné au fil des années, c'est la volonté de créer sa propre entreprise. La première fois que j'ai sondé dans l'indicateur pour la Fondation d'entrepreneurship, il y a 11 ans, on était à 6 % des Québécois qui voulaient lancer leur entreprise. Aujourd'hui, on atteint 20 % avant la pandémie. On a une petite réduction à 17 % après la pandémie. Mais on était les derniers il y a 11 ans. Mmh. Et aujourd'hui, on est la société la plus entrepreneuriale. Il y a un changement important et tout ça, c'est soutenu par l'arrivée des femmes entrepreneurs, l'arrivée surtout des immigrants entrepreneurs. Mmh. Près de la majorité d'un jeune immigrant qui arrive ici au Québec veut lancer sa propre entreprise. Ouais. Fait que ça a propulsé les jeunes, les femmes et les immigrants à la montée de l'entrepreneuriat. Et c'est directement lié à la fierté de réussir.
Ben, tout à fait raison. Et je pense que c'est important. Il faut rajouter au facteur que tu as mentionné la disponibilité du capital de risque, qui n'existait pas au Québec. Ce n'est pas une coïncidence si nos institutions, je parlais de Desjardins ou Métro ou Coutu ou autres, sont des institutions commerciales affiliative, parce que tu n'avais jamais suffisamment de capitaux pour pouvoir la partir. Depuis l'avènement de leviers, la Caisse de dépôt est un bon exemple, Investissement Québec, le Fonds de solidarité, qui soit dit en passant, quand tu regardes tout ça, c'est le bien collectif qui est mis à contribution. Ça aussi, ça fait partie du modèle québécois. On se le fait tellement reprocher, mais au moins, ça fonctionne bien. Maintenant qu'on a ces leviers-là, ça nous permet, des entrepreneurs, de plein pied. Et puis, évidemment, de réussir et d'en être fiers.
Ouais, puis comment tu vois, moi, dans le fond, j'étais un chercheur toute ma vie, j'ai fait de la recherche, mais ce que je suis le plus fier, c'est d'avoir bâti une entreprise.
Ben oui, avec raison.
T'sais, l'entrepreneurship en moi, de partir de zéro, puis aujourd'hui, j'ai 600 employés à travers l'Amérique, là, tu sais, ça, c'est une fierté pour un entrepreneur. Puis j'en ai connu au fil de ma carrière, toutes sortes d'entrepreneurs qui ont connu beaucoup de réussite, mais beaucoup d'échecs. Ma phrase fétiche que je leur disais, c'était, vous savez, en affaires, on ne perd jamais. Soit qu'on gagne, soit qu'on apprend. Puis moi, j'ai appris beaucoup. J'en ai eu des défaites. Mais l'élément, c'est d'aller plus loin puis d'avancer. Puis les entrepreneurs, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les entrepreneurs d'ici, pensez à la famille Coutu, en sont la deuxième génération, des fois la troisième.
Oui.
Puis à tout égard, CGI, c'est la première génération. Les Pelado, c'est la deuxième. Québécois et Pelado, c'est la deuxième génération.
Oui.
On n'a pas beaucoup. Alors que quand je fais affaire avec des clients américains, ils en sont à la cinquième, sixième, septième, huitième génération. Ça. Fait qu'il y a tout un écosystème entrepreneurial aux États-Unis qu'on est en train de bâtir au Québec.
Oui.
Mais c'est quand même phénoménal d'être devenu ceux qui ont le plus l'esprit entrepreneurial. C'est vraiment un nouveau trait de caractère. Et derrière ça, il y a une raison. Jacques, je te la pose en question. Que c'est là pour toi, pourquoi? Sinon, je vais répondre. Moi, j'en ai une réponse.
Pourquoi on est plus entrepreneurial?
Qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, moi, je pense que l'éducation a dû y contribuer, forcément. Je pense que la jeune génération se sent beaucoup moins victime pour des raisons qu'on a déjà mentionnées. L'accès au capital de risque, mais il doit sûrement avoir une quatrième.
Allez, l'autre, c'est celle-là. La relation avec l'argent.
Ah oui.
Pour nos parents, pour notre génération, l'argent, c'est un peu péché. Avoir de l'argent, là, si t'en as, c'est parce que t'as volé quelqu'un, puis si t'en as, tu dois partager. Là, c'est un vieux fonds judéo-chrétien qui fait qu'on a une relation bizarre avec l'argent. Je demande aux gens plus âgés, est-ce que l'argent fait le bonheur? Non. Je demande aux jeunes, est-ce que l'argent fait le bonheur? La réponse, c'est oui.
C'est oui. Hein?
C'est oui. Puis ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. La question qu'on a repris de l'Institut Pew aux États-Unis, un baby-boomer à 20 ans, on lui demandait, est-ce que l'argent est important dans ta vie?
Ouais.
Est-ce que faire de l'argent est important dans sa vie? On avait 45% des baby-boomers lorsqu'ils avaient 20 ans qui disaient oui. La question a été posée aux X. Quand ils avaient 20 ans, les X, c'était 55%. On l'a posé aux milléniaux. Quand ils avaient 20 ans, c'est 75%.
Ben oui, hein?
C'est la volonté d'avoir de l'argent, elle est là. Mais il y a quelque chose de fondamental entre les Québécois puis le reste du Canada. C'est que nous autres, faire de l'argent est un moyen.
Ouais.
Pour la communauté anglophone, c'est une fin en soi. Les autres, ils jouissent de voir leur compte dans la banque augmenter. Nous, on a besoin d'argent pour vivre des expériences.
Ouais.
T'sais, c'est l'argent, c'est pas l'accumulation qui nous intéresse, c'est que ça me permet de voyager, ça me permet de m'acheter un appartement, ça me permet de... Fait que oui, l'argent est important, mais pas pour les mêmes raisons.
C'est peut-être la raison pour laquelle on n'a peut-être pas de troisième puis de quatrième génération d'entrepreneurs non plus. Si effectivement, c'est un moyen et non pas une fin. Mais même ça, c'est en train de changer, tu as tellement raison. Une des choses que j'ai toujours trouvé intéressante dans cette dimension de fierté, et on en parle dans le livre, c'est que pour beaucoup de Québécois, la fierté, elle se lit dans le regard de l'autre. C'est-à-dire que, bien sûr, on est fier de nos succès, mais on est surtout fier de nos succès lorsqu'ils sont reconnus à l'extérieur. Puis, on a tous ces exemples, mais l'exemple...
Alors moi, je vais t'arrêter ça. C'est tellement fondamental ce que tu dis là. On a besoin de reconnaissance.
Oui.
Et ça, là, quand les anglophones ou le reste du Canada ou le reste du monde nous dit qu'on est bon...
Ah.
Félix Leclerc est le bon exemple. Céline Dion est un bon exemple. Quand le reste nous dit, vous êtes bon, là, tout d'un coup, on a une vision différente des choses.
Oui, parce que jusqu'à ce qu'on soit reconnu dans l'œil de l'autre, on a une petite gêne à être fier de quoi que ce soit qu'on ait accompli. Desjardins est un exemple que je trouve intéressant. Moi, j'ai toujours trouvé fascinante l'histoire de cette institution-là. Desjardins, à la fin du mandat de Monique Leroux, avait atteint les sommets là, parmi les institutions financières les plus performantes au monde, là, pas au Canada, au monde. Et lorsque ce chiffre-là est sorti, j'étais évidemment toujours professeur au HEC, les gens, à bien des égards, n'en croyaient pas. Puis ceux qui avaient une tendance à dénigrer Desjardins comme étant bon, la petite caisse populaire se disaient, mais c'est nous autres, ce truc-là. Ben oui, soudainement, on est reconnu dans l'œil de l'autre. L'exemple plus près de nous, mais moi que j'ai toujours trouvé bien intéressant, c'est la fameuse Poutine. Oui, on en est fiers, mais en même temps, ben, tu sais, si quelqu'un arrive ici... On dit, ouais, j'espère qu'il n'aura pas mangé une poutine parce que c'est la seule chose par laquelle on va être reconnu. Jusqu'à ce que McDonald's mette la poutine coast to coast jusqu'à Vancouver sans changer le nom. Et ça s'appelle une poutine. Évidemment, c'est plus facile puisqu'il n'y a aucun accent aigu, grave ou circonflexe. Et lorsque tu te promènes à Vancouver puis tu vois Poutine, c'est comme, il y a un peu de nous autres qui est rendu à Vancouver. C'est fou, hein?
Ouais, c'est fou. C'est ça. T'as tellement raison. Moi, dans ma propre entreprise, ma propre expérience personnelle, quand j'ai ouvert à Toronto, c'est là que je suis devenu crédible au Québec.
Ah, ben voilà.
Puis quand j'ai ouvert aux États-Unis, c'est là que je suis devenu crédible à Toronto.
Oui. Ben oui, oui, oui.
Tu sais, la fierté est un jeu de miroir, hein? C'est un jeu de miroir à tout égard que chacune des étapes que tu bâtis comme entreprise. Mais tu sais, il y a beaucoup de jeunes pousses, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui sont au Québec, là, qui cherchent à réussir. Les conditions gagnantes sont là. T'as parlé du financement, t'as parlé de l'éducation, t'as parlé de la volonté, mais aussi le facteur technologique.
Oui.
Tous ces facteurs-là font là, que ce qu'on vous dit aujourd'hui, la tendance de l'entrepreneuriat est en train de changer le Québec. Puis un des éléments de réussite, c'est celle-là. Il y en a d'autres. Quand on pose quelque de quoi êtes-vous le plus fier, numéro un, c'est Hydro-Québec.
Ah oui.
Numéro deux, c'est les garderies. Ensuite de ça, un peu plus loin, comme on l'a dit dans une autre émission, l'égalité des chances. Il y a plein de facteurs sur lesquels on est fiers. Oui, on se critique. Oui, on a des débats qui, des fois, qui sont stériles. Mais en bout de ligne, là, les Québécois sont fiers d'eux autres.
Ah, tout à fait. Tout à fait. Mais en même temps, c'est une des conséquences de notre victimisation et qu'il faut quand même reconnaître que, comme tu le mentionnais, c'est peut-être plus facile de se faire valoir à l'extérieur du Canada que dans le reste du Canada. Si je peux me permettre, je te raconter une petite anecdote. Il y a plusieurs années, le magazine The Economist fait à chaque année une espèce de concours interuniversitaire au niveau international. Et HEC Montréal avait gagné contre Harvard en finale. En finale! Et j'étais secrétaire général et je m'étais empressé d'appeler au Globe and Mail en disant, écoutez, c'est quand même une institution canadienne qui vient de battre Harvard. Puis pour eux, ils voyaient pas l'intérêt. It's a non-issue. Et là, il a fallu que je rappelle en disant, moi, ça me fait rien, mais le New York Times sort la nouvelle demain. Et là, ils l'ont sorti.
Exact, c'est exactement ça. Puis c'est ça qui fait que souvent, on a besoin du regard des autres. Une petite nation de 8 millions de personnes a besoin du regard des autres. Dans la fierté, là, tu touches une corde sensible. C'est que les Québécois, souvent, sont des gens qui sont plus passifs. Mais il ne faut pas que tu les attaques. Bien. Parce qu'ils sont fiers d'eux-mêmes. Puis, tant que tu fais ça à travers le Québec, les plus fiers d'eux-mêmes, ce sont les gens de Québec.
Oh.
La ville de Québec, le niveau de fierté est tellement plus élevé.
Oui.
Ça fait que quand ils se sentent attaqués, ben, ils réagissent.
La République de Québec.
La République de Québec. Il y a une réalité totalement différente du reste du Québec. Dans les différents traits de caractère, forcément, ça varie en fonction des générations, ça varie en fonction d'homme ou femme. Mais dans le livre, ce qu'on démontrait, c'était la relation entre l'une et l'autre. C'est-à-dire, ce qui était nouveau, là, puis ça, on se rappelle quand on écrivait le livre, on avait vu cette relation-là mathématique, là, sur le fait que quand t'es heureux, c'est pour ça que tu cherches à être consensuel. Mmh. Quand tu es consensuel, tu deviens détaché parce que tu veux pas prendre position. Quand tu veux pas prendre position, tu deviens victime parce que tu subis. Quand tu deviens victime, ben tu risques de t'isoler dans ton village avec cette attitude de villageois-là. Parce que tu es villageois, il a fallu que tu démontes ta créativité. Et de ta créativité, quand tu réussis de la fierté, c'est ça qui est le bonheur québécois. Le bonheur est dans le fond le début et la fin de la réalité, qui est le cœur du Québec. Mais derrière ça, il y a un facteur générationnel.
Oui.
C'est-à-dire, puis ça, puis c'est là que j'en viens de voir que oui, la fierté est là, mais la fierté, là, c'est un facteur de génération. Si on y va étape par étape, par exemple, la génération des baby boomers, eux sont dans le spectre entre le consensus et villageois. Ils sont sortis du village, puis eux autres vivent le consensus, veulent éviter les chicanes.
Ouais.
Alors que les baby boomers, qui étaient le peuple qui voulait changer le monde, eux autres sont passés du créatif au détaché. Là, actuellement, ils sont à la retraite, en banlieue, puis ils s'occupent plus de changer le monde.
Eux, ben, c'est-à-dire, ils l'ont changé. Alors, ils sont contents d'avoir réussi. Ils ont changé le monde, sans doute, pour le mieux. Puis là, ils comprennent même pas que la génération suivante veuille encore changer des choses.
Puis l'autre arrive, la jeune génération, elle part de la victime et elle arrive sur la fierté.
Oui.
Parce que la jeune génération, c'est là qu'elle drive beaucoup. Elle est motivée, stimulée par la fierté. Fait que chaque génération apporte un des traits identitaires. Puis c'est ça qui est la beauté du livre qu'on écrivait ensemble, c'est qu'on voyait les relations donner un tout global sur la réalité québécoise. Mais de tout ça, le bonheur était au début. Et le bonheur y revient.
Mais je voudrais revenir sur cette notion de fierté qui est, tu as tellement raison, l'apanage des plus jeunes générations. Tu sais, tu as mentionné Hydro-Québec comme étant le numéro un en termes de fierté. Hydro-Québec, lorsqu'on revient sur cette idée d'Hydro-Québec, qui était l'idée fondamentale de René Lévesque lorsqu'il était dans le cabinet de Jean Lesage, c'était en réaction à... On veut nationaliser Hydro-Québec en réaction à la Shawinigan Light and Power ou bon, peu importe. Mais c'était en réaction. Il y avait un petit côté victime, là. On veut prendre le dessus. T'as pas ça dans la jeune génération. Il y a personne qui part un Shopify ici ou qui part un autre type d'entreprise en réaction à. Ils veulent le partir pour être les meilleurs. Point.
T'as tellement raison sur ça. Puis tu sais, cette ambition là, c'est nouveau. Et puis t'as quelque chose de cette jeune génération là qui est extrêmement ambitieuse. On va en reparler dans notre dernière capsule là, mais c'est quelque chose qui est fondamental. Tout à l'heure, ce que je disais, c'est que la fierté là, ça vient beaucoup quand on mesure ça, du slogan français. La France, c'est égalité, fraternité, liberté. Mm-hmm. Mais quand je regarde de tout quoi on est plus fier là, l'égalité, la fraternité, tout notre effet de solidarité, puis de la liberté qui est la quête permanente du peuple québécois. Le slogan américain, c'est la poursuite du bonheur,
oui,
qui est aussi très québécois, qu'on a aussi intégré.
Oui, oui, oui.
Le seul où on a un peu plus de difficultés, c'est God Save the Queen.
Oui, ça vite.
Là, on a un peu plus de distance face à ça.
Un petit gêne.
Mais dans le fond, ce qu'on vous raconte depuis le début, c'est ça. T'sais? Les Québécois sont issus d'une culture française, oui, vivent dans un monde anglo-saxon avec un mode de vie américain. T'sais? On a le mélange des trois, avec les bons et les mauvais côtés. Puis les sept traits d'identité, dans le fond, c'est la clé pour être capable de les convaincre, si vous êtes en affaires, pour être capable de les comprendre, ces Québécois-là. Puis c'est que cette code-là existe à travers le temps, plus ou moins en fonction des générations, mm-hmm, mais ils existent à travers le temps.
Mais tu as tellement raison, si tu te souviens bien, lorsqu'on a lancé la première édition, on l'a lancé également en anglais, en se disant, voici ce qu'on vous offre, chers compatriotes, pour essayer de nous comprendre, parce que en ce moment, le marché du Québec, c'est quand même 23 % du Canada. Si vous ne faites pas les bonnes choses, ben vous vous privez 23 % de votre marché. C'est quand même pas rien.
Ah ouais, puis c'est pour ça qu'à travers le temps, on a tellement fait de présentations, ouais, à toutes sortes de chefs d'entreprise résiduels pour être capable de décortiquer le Québec. Ouais. Ils nous le connaissent pas. Non. Nous, on pense souvent qu'ils travaillent contre nous. Non, ils nous ignorent. C'est la bataille Québec-Montréal, on a la même entre le Québec puis le reste du Canada.
Absolument. Puis beaucoup d'entreprises ont tardé et certaines tardent encore à rentrer sur le marché du Québec. Et je pense que c'est sage. Il y a beaucoup de détaillants qui sont dans le reste du Canada, qui ne sont pas au Québec, parce qu'ils se disent, non, ça va être trop compliqué à s'adapter pour ce que l'on peut aller chercher. Moi, je suis pas nécessairement content de cette décision-là, mais au moins, je la respecte et je la salue parce que ça veut dire qu'ils ont fait leur devoir. D'autres...
Contrairement à un Target, par exemple,
bon,
tu te rappelles?
Oui, la liste peut être longue, là. Et puis, il y en a d'autres, tu mentionnais tout à l'heure, Loblaws, pour lequel le seul problème, c'est que les Québécois savaient pas exécuter leur formule parfaite ou à perfection. Et il y a d'autres entreprises qui, contre vents et mondes, s'acharnent à rentrer sur le marché du Québec de la mauvaise façon et en sortent découragées. Et puis, d'autres, pas suffisamment nombreuses, et c'est la raison pour laquelle Bouchard avait écrit son livre à l'époque, hein, lisent bien le code, puis s'adaptent correctement et réussissent bien. Je te dirais, Walmart, Costco sont parmi celles-là.
Dans les 36 codes sensibles de Jacques Bouchard, écrit dans les années 70, la suite, c'est le Code, mm-hmm, Québec. Puis il y avait une statistique importante pour ceux qui nous écoutent, qui englobe toute l'information. Sur l'ensemble de nos attitudes et comportements que je mesure depuis 35 ans, les Québécois sont à 71 % semblables au reste du Canada. Mm. Il y a 29 % de nos comportements et attitudes qui sont différents, mais qui fait toute la différence.
Ça fait toute la différence.
Et on parlait de la fierté dans ce cas-ci. Un des éléments sur lesquels les Québécois sont le plus fiers, c'est qu'ils sont fiers de leur différence.
Ben voilà.
On n'est pas comme les autres. Puis ça, là, ça nous stimule, ça nous énergise, ça démontre, ça donne un sens, dans le fond, à notre québécitude.
Cette statistique-là est extraordinaire, hein, parce que 71 % on est similaire, ça peut être interprété de deux façons. Il y a beaucoup de monde dans le reste du Canada qui m'ont dit, ben oui, ton livre dit 71 % votre livre dit 71 % donc on est pareil. Là, je dis, oui, mais regarde, c'est comme si on prenait ton visage puis on grossissait ton nez de 30 % Pas sûr que tu t'aimerais, pas sûr que tu te reconnaîtrais. Ben c'est un peu ça. 30 % ça fait toute la différence.
Exact. Fait qu'on espère que cette balade-là vous a permis de comprendre cette réalité-là. On va prendre les dernières questions.
De quoi les Québécois sont-ils le plus fiers?
Moi, j'aurais tendance à dire...
De même.
Tu m'enlèves les mots de la bouche.
De même.
Moi, je dirais de leur singularité. Et c'est vrai de tous les Québécois. Hein, de tous les Québécois. Pour moi, quelqu'un qui habite et qui choisit le Québec, c'est un Québécois. Là. En partant, là, ça, je vais être bien clair. Lorsque des gens décident qu'ils restent ici parce que ils sont bien ici, sachant que Toronto, c'est bien aussi, mais c'est pas pareil, c'est différent. Ben, il y a là un objet de fierté extraordinaire.
Oh, le besoin de respect. On a besoin d'être respecté. On a besoin d'être reconnu. Oui. Parce qu'on est fier de ce qu'on fait. La différence, c'est qu'on est 8 millions de personnes, dont 6 millions de francophones et 1 million de francophones dans le reste du Canada, entourés de 360 millions d'anglophones.
Oui.
Fait qu'il faut être fait solide pour survivre dans cette réalité-là. Et j'y rajoute le numérique qui fait que la langue anglaise prend de plus en plus d'importance. Et cette dynamique-là fait que la seule manière de survivre, c'est qu'on ait cet effet de solidarité continentale dans le nord-est du Québec. Puis cette fierté-là nous a permis de survivre au fil des années.
Mais tu as tellement raison, si je peux rajouter. 8 millions, ça veut dire la population de la Suède, de la Norvège. OK? Donc, à bien des égards, on est similaires, mais on est très différents. Parce que être Norvégien, t'es par définition une singularité parmi plusieurs singularités. Ça, c'est l'Europe. Être Québécois, t'es singulier dans un gros monolithe, dans un tout monolithique qui s'appelle l'Amérique du Nord. Et ça te force à être encore plus singulier.
Exact. Deuxième question.
Comment on peut être fier de nous-mêmes quand tout va mal au Québec?
Mais tout va pas mal. C'est sûr que la pandémie a créé des problèmes qu'on n'a jamais vécu. Il a fallu vivre à travers ça, Jacques. Mais tout va pas mal. Hein? C'est sûr qu'il y a une fraction de gens qui sont plus affectés. Mm. Ça va être l'objet de notre prochain balado, les jeunes. Mm. Fait que c'est quand on est jeune aujourd'hui, on est dans un environnement plus difficile, avec plus d'opportunités, plus de capacités. Mais en même temps, être jeune en 2021, c'est pas facile.
C'est juste, effectivement. Ça ne l'aurait pas été, même sans pandémie. Ça l'est encore plus difficile avec la pandémie.
Puis ça, on va en parler dans notre prochain balado.
Voilà.
Et merci, Jacques.
Merci à toi.
Le balado du Code Québec est une production de Léger en collaboration avec Cube Radio. Réalisé par Jérôme Léger, producteur délégué Marc-Olivier Goulet-Lantier et mixage sonore Réservoir Audio.